française.
Latina.
La franco-latina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonjour, bienvenue au Boulevard Franco-Latino. Aujourd'hui, un boulevard exceptionnel. Nous ne sommes pas dans les lieux habituels à la Maison de l'Amérique latine. Nous sommes pas loin, nous sommes ailleurs. Nous sommes à l'espace Louis Vuitton. Et c'est avec la musique de Gustavo Santaolalla, La Partida, le départ de la bande son du film Journal de motocyclette, le film sur l'histoire du Che Guevara, que nous commençons ces boulevards exceptionnels. Exceptionnels parce que, je vous le disais déjà, il se passe ailleurs, il se passe à l'espace Louis Vuitton, du côté des Champs-Élysées, au 7e étage de l'immeuble de la maison Vuitton. Il y a cet espace où, depuis quelques jours, il y a l'envers du décor chilien. Une exposition curieuse, déjà à l'origine, différente, mais devenue particulièrement curieuse après les événements que l'on connaît. Nous allons discuter ici avec une véritable tribu qui travaille à l'espace Vuitton autour du travail de l'espace lui-même et en particulier de cette exposition. Tribu à la tête de laquelle il y a Marie-Ange Moulonguet, directrice de l'espace, à laquelle je dis bonjour. Bonjour Marie-Ange, bienvenue dans le boulevard. Merci de cette hospitalité.
Bonjour Eduardo, on est très très heureux d'être avec toi aujourd'hui et je dirais spécialement aujourd'hui dans ces moments qui nous lient au Chili plus qu'on n'aurait pu jamais y penser.
On a discuté avant le vernissage de l'exposition lorsque je vous avais demandé pourquoi le Chili. Vous m'aviez expliqué entre autres choses et vous aviez insisté beaucoup là-dessus. J'étais au Chili et j'étais frappé, entre autres choses, ou principalement même, par la nature. Vous avez dit la nature s'impose, la nature est là de façon très présente et elle est même présente dans cette exposition. Depuis quelques jours, la nature s'est imposée, la nature a parlé fort, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris les événements du Chili, à savoir ce tremblement de terre du 27 février dernier ?
J'ai appris, mais très fortement, j'allais dire dans mon corps en fait, que ces choses qui s'étaient passées pour la dernière fois en 1960 peut-être n'allaient plus se passer d'ici très longtemps, et que quand on l'a appris, c'était vraiment là, c'était à nouveau là, et il y a eu comme un espèce d'écho assourdissant à cette terreur qu'on avait chacun en soi, et puis qui s'est matérialisé à l'aube de la présentation de cette exposition avec un vécu extrêmement particulier, parce que nous vivions avec tous les artistes qui étaient venus des quatre coins du Chili et un autre de New York, et on avait passé 10-12 jours ensemble, et on venait de se quitter dans une espèce d'allégresse, d'euphorie. On avait partagé vraiment des moments d'exception, on en avait tous rêvé de ces moments de partage. On s'était promis qu'on allait se revoir, on avait créé des liens, on avait ri, on avait parfois pas pleuré, mais on s'était ému de beaucoup de choses. Enfin, on avait vécu ensemble, on s'était quitté, et puis tout d'un coup, la pensée de tous ces nouveaux amis, en fait, qui chacun était reparti dans leur pays, pour l'un d'ailleurs n'arrivait pas à repartir, m'a semblé une espèce de signe très bouleversant du fait qu'on dit toujours que l'art est à part, et là, l'art et la vie étaient totalement ensemble, que la fiction et la réalité se rejoignaient, d'autant plus que, mais on aura beaucoup l'occasion d'en reparler, il y a une œuvre extrêmement signifiante de cet événement, mais que l'artiste avait voulu transcender par un regard artistique, qui est cette œuvre de Francisca Garcia sur le tremblement de terre.
Nous allons y revenir. Je voudrais maintenant me tourner vers Hervé Kaelhoff. Bonjour, bienvenue sur ce boulevard exceptionnel. Vous êtes le commissaire de cette exposition, comme des expositions précédentes que l'espace Vuitton a consacré au voyage. Est-ce que, pour vous, le fait d'avoir choisi, d'une part, cette œuvre dont vient de parler Marie-Ange Moulonguet, Le tremblement de terre, Une deuxième œuvre que l'on voit aussi avec des yeux différents, c'est une œuvre où on est extasié face à une sorte de démesure d'une piscine la plus grande du monde, dit-on, qui est une sorte d'espace très pacifique face à l'océan qui porte le même nom, mais qui ces derniers jours s'est plutôt obstiné à démentir son nom de Pacifique, puisque, on le sait maintenant, le tremblement de terre a été grave. Le raz-de-marée, les tsunamis a été pire, tout au moins en vie humaine. Vous-même, quand vous pensez, je dirais avec le recul, à ce qui vous a impressionné, à ce qui vous a amené à choisir ces œuvres, quelles sont vos sensations? Et justement par rapport aussi à ce dont parlait Marie-Ange Moulonguet, la façon dont cela s'entrecoupe, cette exposition, ces œuvres, avec la réalité.
Bonjour, donc en juin 2009, nous sommes partis avec Marie-Ange à Santiago pour rencontrer des acteurs de l'art contemporain chilien et notamment des artistes. On a vu beaucoup d'ateliers d'artistes et tout de suite, ce qui nous a frappé, c'était la volonté de ces artistes de produire des œuvres. Donc je crois qu'une des particularités de cet espace rue de Bassano, c'est la possibilité d'emmener des artistes dans des voyages lointains et de les faire venir à Paris pour travailler sur des nouvelles productions. Ce qui était le cas de Francisca Garcia, qui a beaucoup travaillé dans le cinéma et pour la télévision, et qui a souhaité, dès le départ, faire une œuvre nouvelle. Quand elle nous a indiqué sa proposition de travailler sur les témoignages du tremblement de terre de 1960, qui a été le tremblement de terre le plus puissant enregistré à ce jour, l'idée nous a paru intéressante parce que effectivement, elle faisait partie, je dirais même, de l'identité chilienne à travers le vécu, à travers la particularité du pays. Ne sachant pas exactement ce qu'elle allait tourner comme image, on a découvert réellement l'œuvre le jour du montage, une dizaine de jours avant l'exposition. Et moi, j'étais frappé à la fois, effectivement, par la vérité de cette œuvre, c'est-à-dire dans son témoignage où elle avait retrouvé des gens qui avaient vécu le tremblement de terre dans leur chair, et notamment sur des bateaux qui étaient amarrés auprès des côtes. Et aussi, ce qu'elle a raconté, ce qui aujourd'hui, moi, me frappe particulièrement, cet effet, effectivement, raz-de-marée, tsunami, qui s'est passé il y a maintenant 15 jours, et qui montrait en fait tout le problème qu'il y avait autour de cet événement. Donc c'était un peu une œuvre miroir, certainement. Pour répondre à votre question sur l'autre œuvre de Nicolas Rupchich, Big Pool, là c'est une œuvre qu'on a vue, qui était déjà réalisée, qui nous a paru intéressante dans son absurdité urbanistique, parce qu'elle montre la plus grande piscine du monde jamais réalisée, qui fait 1 kilomètre de long, qui a été construite parallèle à la mer. Donc c'est plutôt de cette qualité-là, finalement, de cette absurdité, de ce côté un peu cocasse de l'œuvre de Nicolas Rupchich, qui est un artiste assez jeune, et sa référence évidemment à David Hockney ou d'autres artistes, moi qui m'a paru intéressante.
On va revenir là-dessus, et je voudrais dire à nos auditeurs, si jamais vous entendez une sorte de rumeur qui est une rumeur de fond, vous n'avez aucun problème chez vous, c'est chez nous. C'est une rumeur qui est en rapport avec le sujet dont on parle en ce moment. On revient tout de suite, on va écouter une première chanson, des chansons latino-américaines, des chansons d'autres pays d'Amérique latine. C'est une grande dame de la chanson péruvienne, elle s'appelle Chabuca Grande, et là, à l'occurrence, elle chante en français une valse créole.
La valse créole serait que ça, un tout petit, petit comme ça, mignon dentelle de petits pas, ça va. Voici la plus humble de valse, tissée des rêves ensoleillés, venue de loin, si loin, à toi. Ah, c'est ça que je cherche, pays, désespoir pendant l'enivrement de valse créole. Exotique tendresse que je te donne, comme un bouquet d'après caché, c'est un cadeau de temps jadis encore, un tout petit de plus de ça, mais tout petit, petit comme ça, mignon dentelle de petits pas, ça va.
Voici la plus humble de valse, tu sais, de rêve ensoleillé. Humble de valse, tu sais, de rêve ensoleillé. Béni des loin, si loin à toi. C'est ça que je cherche, pays. Désespoir pendant la nuit, roman de valse créole, exotique tendresse que je te donne. Comme un bouquet d'avis caché, c'est un cadeau d'étingerie encore. Un tout petit de plus de sœur, mais tout petit, petit comme sa mignon dentelle. De petits pas, ça va. Voici la plus humble de valse, tissée de rêve ensoleillé, béni de loin, si loin, à toi.
Chabuca Granda, Chabuca Granda, péruvienne, chantait cette valse créole avec cette voix vraiment merveilleuse qui était la sienne, cette grande dame de la chanson péruvienne et ce qu'on appelle el vals criollo. Nous sommes donc à l'espace Vuitton, où il y a cette exposition qui se tient jusqu'au 9 mai prochain. Vous avez le temps de venir. Et là, on va essayer de vous donner des bonnes raisons éventuellement pour venir. Il y a quelqu'un qui est déjà venu, qui est là d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Emenier. Il est blogueur. Nicolas, vous êtes venu, vous avez vu. Quelles sont vos impressions comme ça au pied levé?
Alors, comme toutes les expositions que j'ai pu voir jusqu'ici, ce que j'aime, c'est qu'il y a des idées autour d'un voyage, déjà. Et des idées qui vont plus loin que les idées reçues qu'on peut avoir sur ce pays. Par exemple, on connaît du Chili sur tous ses paysages, donc on voit des œuvres qui mettent en avant des portraits, des personnes. Donc on voit qu'il y a une culture derrière un pays. Donc c'est des choses qu'on aime découvrir ici. Et si on regarde, on a beaucoup parlé de cette fameuse œuvre du tremblement de terre. C'est une œuvre aussi qui apporte plus que cette idée du tremblement de terre, plus que les catastrophes. On a des images calmes qui sont en contraste avec les images violentes qu'on a l'habitude de voir dans des médias. Donc qui donnent vraiment une autre idée, un autre ressenti, certainement peut-être plus réaliste, puisque ça passe vraiment par le bruit, donc quelque chose de plus viscéral qu'un ressenti terrible et presque dégoûtant qu'on a l'habitude de voir dans les images de cadavres des journaux télévisés.
C'est quand même pas un tremblement de terre qui vous soit devenu une idée attractive.
C'est quand même, on peut dire que c'est une idée attractive dans le sens où elle nous fait voir une autre vision de la réalité. Et c'est ce que j'aime dans l'art contemporain.
Est-ce qu'il y a une autre œuvre qui vous a particulièrement frappé?
Il y a aussi cette fameuse légende chilienne du cuir vivant que je trouve retranscrite d'une manière assez originale en vidéo, vraiment très proche du ressenti qu'on peut avoir aussi. On sent que l'artiste a mis beaucoup d'elle dans cette œuvre, dans cette vidéo, qui est à la fois très reposante et un petit peu angoissante par certains côtés également. Une œuvre également donc, qui nous met dans l'ambiance de l'artiste et qui fait ressentir les sentiments de cet artiste.
Merci Nicolas. Nicolas Emenier, visiteur de cette exposition, l'envers du décor chilien, d'où nous sommes en train de vous présenter ce boulevard franco-latino exceptionnel. Je voudrais, avant de revenir, discuter un peu avec Hervé, avec d'autres membres de la tribu, qu'on écoute quelqu'un qu'on a pu interviewer lors de son passage à Paris, Justo Pastor Mellao, qui est un peu une sorte de contrepartie chilienne. Il est critique d'art, il est commissaire d'art indépendant, et on avait discuté avec lui un peu du type d'artiste qui était présent, comment il les voyait, quelles étaient d'après lui les particularités, ce qui caractérisait cette brochette d'artistes présents dans l'envers du décor.
Ce sont des artistes qui pensent toujours à la nature du lieu, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aller travailler et monter une expo à l'espace culturel Vuitton avec tous les effets symboliques que le mot Vuitton a. Déjà, le mot Vuitton te met dans une place de distance intéressante. On dit, qu'est-ce que ça a à faire? Deux, c'est qu'on ne prépare pas des œuvres pour la France, mais pour l'espace. Non des œuvres site-spécifiques, mais des œuvres qui, quand même, mettent en cause une certaine notion du voyage, une certaine notion du transfert, du transport. Toutes ces images d'architecture folle au bord de mer au Chili, c'est une métaphore aussi du Chili actuel. Il y a pas mal de méchanceté méthodique dans ces artistes qui se mettent d'abord face à un défi. Et ce défi, ils l'abordent avec une attitude, je dirais, un peu cartésienne. Ce sont des artistes qui connaissent la perversité chilienne. Ils sont très doués à ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des artistes du dédroulement. Ça, c'est très chilien, de brouiller les pistes. C'est un brouillage. Moi, je crois qu'il faut parler en termes radiophoniques à l'ancienne. Ce sont des artistes d'esprit très radiophonique, même s'ils ne travaillent pas dans un support radiophonique. Parce que dans la radiophonie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la voix. Il n'y a pas la représentation du corps. Et l'art chilien est un art qui exprime une certaine phobie à la représentation de la corporalité.
Hervé Mikhaïlov, Justo Bastón Mellao, ça a été un peu un complice dans le montage de cette exposition. Est-ce qu'elle vous convient, cette description qu'il fait, un peu de la brochette d'artiste, de ce qui les caractérise? Dans un autre passage, dans l'autre interview que nous avons fait avec lui, il parlait du fait qu'effectivement, cette exposition ne donne pas une image du Chili, mais plusieurs images, mais que s'il y avait un trait commun entre tous, c'était la façon de travailler, la méthode. Est-ce que vous le voyez comme ça ?
On a appelé l'exposition L'envers du décor parce que justement il y avait ce côté double, presque schizophrène, je trouve, dans l'art chilien. Ce qui est étonnant, et je crois qu'on l'a remarqué tous en voyant cette exposition, c'est finalement la non-représentation du corps. Et le Chili est très présent, les Chiliens sont très présents, mais il y a très peu de portraits. Il y a beaucoup de compositions, il y a une réflexion sur l'architecture, il y a une réflexion sur le paysage, il y a une réflexion sur l'identité chilienne, mais qui ne passe pas par la représentation du portrait, ou très peu. Et ça, c'est une chose qui n'était pas volontaire de ma part, mais que j'ai pu constater après dans les artistes qu'on a choisis.
Il y a évidemment d'autres artistes au Chili qui pratiquent l'art contemporain, qui ne sont pas là. Et d'après ce que Justo Bastón Mellao nous disait, il y avait eu un choix d'aller chercher des artistes plutôt nouveaux, plutôt émergents. Et c'est effectivement le choix qui a été fait.
Oui, c'était vraiment l'idée de briser les frontières et de briser aussi les clichés. Je pense qu'on se fait encore une idée de ce que peut être l'art chilien en France, qui était peut-être un petit peu dépassé, et qu'aujourd'hui les artistes qui ont 25, 35, même 40 ans ont envie de dépasser ces clichés-là, et même s'ils intègrent évidemment leur passé, s'ils intègrent évidemment les incidents politiques, s'ils intègrent évidemment le passé et l'héritage de la dictature, il y a dans cela une approche plus intellectuelle, plus conceptuelle, peut-être que la génération précédente qui avait besoin de montrer, d'expliciter, d'être plus peut-être symbolique au premier degré. Donc cette double lecture dans les œuvres, on parlait de l'œuvre de Carolina Cerkel sur le cuir vivant, me paraissait tout à fait symbolique de ça, parce que finalement c'est une pièce qu'elle a tournée à Paris, dans une rivière, et qui part d'un conte chilien. Et malgré tout, on peut y lire vraiment une double lecture, c'est-à-dire à la fois une pièce très impressionniste à fleur de peau et qui parle de cette histoire, et évidemment une pièce très aussi symbolique qui parle de l'effet de disparition et l'effet de disparition sous la dictature.
L'art contemporain est un art pensif, c'est-à-dire on réfléchit beaucoup avant de créer quelque chose. Et ça oblige aussi celui qui regarde à penser beaucoup pour essayer d'aller justement dans cet envers du décor, au-delà de l'image qu'il a devant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de facile à réussir? Lorsque quelqu'un voit les images d'une grande piscine sur le bord de l'océan Pacifique, est-ce que ce quelqu'un met un temps à sentir qu'il y a là un paradoxe, à voir effectivement ce qu'en l'occurrence Nicolas Rupšić a voulu dire?
Je crois que oui, c'est preuve de l'art contemporain d'avoir différentes appréciations ou différentes interprétations. C'est le propre de l'espace Louis Vuitton de les accompagner, et je pense que le rôle de médiation que fait Marie-Ange avec toute son équipe est vraiment fondamental, parce que le visiteur est pris en main, sans être harcelé. Je pense que cette œuvre-là, elle se dévoile justement petit à petit par son absurdité, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on doit ne pas la comprendre pour mieux ensuite l'interpréter.
Est-ce que c'est une exposition, surtout dans l'œuvre sur le tremblement de terre, qui est plutôt que d'être à voir, elle est à ressentir?
Oui, c'était propre de Francesca Garcia quand elle a réalisé cette pièce sur le tremblement de terre qu'elle a symbolisée par l'échelle de Richter. C'était d'avoir un ressenti qui était un ressenti interactif avec le public, c'est-à-dire le tremblement qui est un tremblement qu'on peut entendre ici comme bruit de fond et qui vient dans l'exposition accompagner le visiteur plus qu'une reconstitution réellement d'un tremblement de terre comme on peut le voir dans des parcs d'attractions. Ça, c'était pas du tout son idée, mais c'était de mettre le visiteur en situation pour mieux ensuite parler, pour mieux montrer ces images qui finalement montrent peu de choses. Il montre les ruines, parle de témoignages. Ces images sont très belles, mais c'est pas l'esthétique de la déconstruction, c'est pas l'esthétique du journal télévisé. Et je crois que c'est ce décalage que doit aujourd'hui avoir les artistes, et que même après les événements qu'on a pu tous voir, c'est vraiment concret et réel.
Il y a sur les Champs-Élysées, donc, tous ceux qui se promènent voient l'immeuble Louis Vuitton, et cet immeuble Louis Vuitton finit dans une sorte de coupole. Alors, chaque fois que vous passez dans les Champs-Élysées, avant d'entrer dans l'exposition, je voudrais vous dire que vous pouvez imaginer que sous cette coupole, on entend cette musique.
Naranjita, naranjita, porque llora, porque tengo que... Ah, no se pasa mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la van a coger, se la van a agüitar de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con el embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego. El caballo era otro. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado, si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro.
también con el caballo.
C'était Victor Jara. La chanson s'appelle El Luchín. Ça fait partie d'une œuvre qu'avait créée Victor Jara. C'est d'ailleurs une cantate appelée La Población. Et parmi les personnages de La Población, il y avait El Luchín. Je vous disais, c'est juste sous la coupole que se trouve l'œuvre de Camilo Yáñez, une œuvre qui raconte un peu l'histoire du Stade National. Curieusement, c'est une œuvre où il est question de reconstruction, non pas d'une reconstruction qui soit due aux conséquences du tremblement de terre, mais à la décision de remodeler ces véritables monuments de la vie civique, de la vie sportive chilienne, et puis d'une vie douloureuse qui était justement celle où Victor Jara a perdu la vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs la chanson, elle est tout à fait à propos dans cette œuvre de Camilo Yáñez. Je voudrais me tourner maintenant vers Juliette Degonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des expositions à l'espace Vuitton. C'est le Chili aujourd'hui. Il y a eu la Russie, il y a eu la Corée. Quelle différence, quelle particularité, qu'est-ce qui vous a frappé jusqu'ici dans cette expo? On pourrait se dire que pour vous, c'est une parmi d'autres.
Alors déjà, il n'y a pas d'expo qui soit une parmi d'autres parce qu'elles sont toutes passionnantes. Elles vous font rencontrer des gens évidemment différents à chaque fois, renouvelés. Puis c'est des relations qui se créent parce qu'une expo, elle se monte dans un temps relativement court. Mais malgré tout, c'est des mois de travail, d'échanges. Ça, c'est fantastique. Et avec les artistes chiliens, il y a cette difficulté, évidemment, de travailler à longue distance. Ça, c'est jamais évident parce que les artistes voient des photos du lieu, mais découvrent en réalité la réalité de l'espace culturel quand ils arrivent. Donc, il y a déjà tout ce travail à entamer avec eux, d'essayer de leur faire comprendre l'espace. Et puis après, il y a tout le travail avec Hervé Mikhaïlov et Marie-Ange Moulonguet sur la partie artistique, le travail avec Alexis Bertrand, qui est le scénographe de l'exposition. Et chaque artiste, en fonction de l'œuvre qu'il présente, a des avis différents sur la façon dont ses œuvres doivent être environnées. Enfin, donc beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et la spécificité de ces artistes, je dirais, parce qu'ils sont la plupart relativement jeunes, donc assez soucieux de cette exposition qui, malgré tout, offre une visibilité assez importante dans un pays qui est la France, à Paris, la capitale, enfin, dans un lieu qui n'est pas n'importe quel lieu. Et donc, pas mal d'angoisse, de besoin, voilà, d'être assuré sur beaucoup de choses. Et puis, des artistes très exigeants, mais toujours pour le meilleur résultat. Donc c'est extra de travailler avec des gens qui sont totalement à ce qu'ils font. Et des artistes qui, je pense, ont découvert aussi un peu peut-être en quoi consistait une exposition dans un lieu qui ne soit pas forcément un lieu public, une institution publique. Parce que ce sont des artistes qui sont essentiellement présentés dans des musées d'État, en fait, au Chili. Ça, c'était intéressant aussi et relativement nouveau pour moi. Enfin, l'approche de ces artistes vis-à-vis de notre lieu était différente là-dessus.
Alors, cette exposition, vous l'avez dit, c'est un lieu différent. Et puis, il y a un peu une sorte d'écran dans l'écran qui est dans l'espace une scénographie. Et ça, ça a été le travail d'Alexis Bertrand. Alexis, on a déjà plus ou moins décrit l'esprit de l'expo, la nature, la diversité même de ses œuvres. Comment fait-on pour imaginer quelque chose qui soit un trait d'union, du point de vue du décor, entre justement deux œuvres tellement différentes?
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, c'est difficile. Non, cet espace que j'ai imaginé, que j'ai imaginé bien sûr avec Marie-Ange et Hervé, je pense que il s'est vraiment appuyé sur ce voyage initial au Chili et sur la rencontre avec ces artistes. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire, c'est avant tout d'installer une atmosphère. qui était juste par rapport à l'émotion que Marie-Ange et Hervé avaient pu ressentir là-bas et au moment de la rencontre avec ces artistes. Notamment une chose qui a donné un petit peu le titre de l'exposition aussi, l'envers du décor, c'est-à-dire quand même un effet de surprise malgré tout, je pense que lors de ce voyage pour Marie-Ange et Hervé. Et du coup, j'ai essayé de placer la surprise et la découverte dans ce projet, dans cette déambulation. C'est-à-dire que le visiteur est invité à découvrir et à être pris un petit peu par surprise, c'est-à-dire de quand il pénètre dans l'espace. Je ne lui ai pas proposé une vision panoramique, générale, où finalement il comprendra exactement là où il est tout de suite, mais il est plutôt dans un espace très déambulatoire, adapté aux œuvres, et où il va redécouvrir quelque chose au détour d'une simèse, d'un mur, avec cet effet de surprise qui paraissait assez primordial.
Alors, c'est une expo art contemporain. On a déjà évoqué la vidéo, on a évoqué la musique. Il y a des installations avec des senseurs qui activent, notamment la rumeur qu'on entend du tremblement de terre, elle est activée par un appareil très sophistiqué. Et donc, il y a toute cette sophistication et il y a cet élément que vous avez choisi comme un élément qui est là dans toute l'exposition, le bois. Mais les bois, dans une expression très très simple, parfois les bois tout nus, est-ce que c'était évident d'arriver à opposer, pour ainsi dire, à toute cette complexité, y compris technologique, la simplicité du bois?
Je ne sais pas si c'était évident. Après, le choix de ces matériaux, puisqu'en fait, il y a différents bois. Peut-être pour décrire pour les auditeurs, il y a à la fois du contreplaqué brut, donc c'est un bois clair qu'on connaît bien, et puis quelque chose de peut-être un peu plus spécifique, qui est un bois composé, recomposé, qui est du médium, dont on a choisi deux teintes, un bleu et un noir. Donc ça installe très physiquement, on va dire, une ambiance, et je pense que c'est ça qu'on souhaitait faire avec ces matériaux assez bruts, là aussi, je pense, dans un prolongement de sensations initiales, qui avaient été partagées, de quelque chose d'un peu rêche, parfois un peu dur, avec des travaux un petit peu de cette nature. Donc finalement, l'espace, il propose de prolonger ça. Même s'il y a effectivement une dimension technologique, il y a des choses aussi qui sont très, très incarnées, de la peinture, du dessin. Enfin, il y a malgré tout des choses comme ça assez physiques et l'espace se propose de le prolonger. Et puis, il y avait aussi, dans le choix de ces matériaux bruts, l'idée d'un espace peut-être pas complètement fini ou un peu en mouvement ou en construction. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur cette exposition, Hervé le précisait tout à l'heure, beaucoup de pièces étaient au moment de leur conception. Et du coup, j'ai pensé que c'était peut-être juste aussi, dans la scénographie, de le prolonger, de le partager et d'imaginer un espace, là aussi en construction, à l'image aussi peut-être de cette jeune scène chilienne.
Il faut dire qu'il y a deux espaces qui sont relativement différents. La plupart des œuvres sont-elles ensemble au septième étage? Mais il y en a deux, Hervé Mikhaïlov, qui ne sont pas au septième étage, qui sont dans d'autres espaces. L'une, c'est une œuvre qui est dans une vitrine sur la rue, une grande œuvre de Monica Bengoa. Et quand on entre dans l'immeuble de Louis Vuitton, il y a une installation vidéo qui change un peu la donne de ce qu'est l'hall d'entrée habituel d'un espace de travail comme l'immeuble Louis Vuitton. Quel a été le pari d'installer deux œuvres de cette expo dans ces deux endroits déjà, entre guillemets, désolidarisés des autres, si on peut dire, et en même temps, pourquoi dans ces espaces-là?
C'est une particularité de l'espace Louis Vuitton d'avoir ces deux espaces. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un espace public dans un lieu qui est, presque la quintessence de l'espace public, c'est-à-dire les Champs-Élysées, d'avoir la possibilité de capter le regard de tout promeneur parisien ou étranger des Champs-Élysées vers cette vitrine qui est rue de Bassano mais qui fait face aux Champs-Élysées, et à la fois un grand pari et un grand risque pour les artistes. On a parlé de cette vitrine à Monica et tout de suite elle a été intéressée par ce lieu. Il est vrai que la nature même de son travail, ces grandes fresques réalisées à partir de matériaux très simples, qui sont soit des fleurs séchées, soit des tissus, et qui là, dans le cas échéant, pour l'exposition L'envers du décor, est fait à partir de feutrines, prêtent à ce genre d'installation. Elle a vraiment joué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à l'envers du décor de la vitrine. C'est-à-dire, l'envers du décor de la vitrine, c'est quoi? C'est le magasin et ses accessoires, ses produits que l'on vend. Donc elle en a fait des silhouettes, elle en a fait des fantômes, et elle a retourné, je dirais, la proposition en dessinant ces silhouettes au laser, avec cette sensation, quand on arrive, d'avoir vraiment presque une sorte de fresque qui reprend le contour de ces produits. Et puis finalement, quand on s'approche de la vitrine, de se rendre compte qu'il s'agit vraiment d'une œuvre et qu'elle est vraiment réalisée en feutre. Concernant l'autre œuvre, qui est aussi dans un espace public ou semi-public, c'est le hall d'accueil de Louis Vuitton. Là, on a souhaité installer cette œuvre que Claudia Del Fierro avait réalisée pour la Biennale de la Havane en 2004, je crois, qui s'appelle Corporativo, et qui en fait permet finalement de montrer un travail qu'elle a fait sur plusieurs mois dans un quartier de Santiago, où elle se mettait elle-même en scène et jouait des personnages fictifs. Et quand on a vu cette œuvre, qui est composée de vidéos, de projections de diapositives et d'objets aussi, c'était vraiment assez après compliqué de l'imaginer dans cet espace. Et je crois que Alexis a très bien compris la complexité de cette œuvre et a su très bien la mettre en scène, justement par rapport à la fois au public de Louis Vuitton et puis par rapport à la spécificité de ce hall d'entrée.
Juliette, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, parce qu'en fait, cette œuvre s'appelle Corporativo, et la vidéo parmi les différents travaux présentés, qui s'appelle Corporativo, c'est justement une vision de ce quartier de Santiago en pleine rénovation, filmée sous la forme d'un film institutionnel d'une entreprise. Donc quelque chose de corporate. Et comme on est dans le hall d'accueil de l'immeuble, c'est un clin d'œil assez... Enfin, voilà.
Merci, Juliette. On va retrouver, après une chanson, d'autres membres de la tribu de l'espace Louis Vuitton. Cette fois-ci, c'est la faute à Marc Chagall. C'est Marc Chagall qui a inspiré le Cubain Silvio Rodriguez. Cette chanson qui s'appelle « Oleo de mujer con sombrero ».
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Silvio Rodríguez, retrato de mujer con sombrero, óleo de mujer con sombrero, plus exactamente. On continue donc à rencontrer divers protagonistes de cette aventure qui est l'envers du décor, l'exposition que vous pouvez voir à l'espace Louis Vuitton à Paris jusqu'au 9 mai prochain. Et nous allons discuter avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la partie d'organisation, la partie pratique, qui continue à être là. C'est Gilles Morgan. Bonjour Gilles.
Bonjour Eduardo.
À propos de cette fameuse œuvre sur le tremblement de terre, qui est une œuvre dans laquelle il se passe des choses qui, d'une certaine manière, invitent les gens à vivre les sensations. Vous me disiez qu'après les tremblements de terre, la perception que vous-même vous aviez, ce n'était pas la même. Il y avait une émotion en plus.
En fait, je pense qu'au-delà de mon regard à moi, les visiteurs sont très touchés en fait, par cette œuvre et sont très touchés différemment. Donc moi qui m'occupe particulièrement des publics, je vois la réaction que peuvent avoir les visiteurs lorsqu'ils arrivent dans la pièce de Francisca. Avant le tremblement de terre, ils la voyaient comme une œuvre d'expérience, d'une part, mais comprenaient en tout cas tout l'aspect de fiction qu'il pouvait y avoir dans ce travail, c'est-à-dire cette idée de reprendre l'idée de Nikola Tesla, de prendre cette base et de raconter une histoire comme si quelqu'un avait retrouvé cette fameuse machine dont on parle pour la réenclencher et recréer malheureusement ce tremblement de terre artificiel. Au départ, voilà, on comprenait très très bien le propos de Francisca qui était de faire ressentir cette sensation très réelle et très intégrale à travers une idée purement fictionnelle. Une fois que le tremblement de terre a eu lieu au Chili, les visiteurs en ressortent beaucoup plus bouleversés. Il y a quelque chose qui s'ancre du coup dans leur réalité, quelque chose qu'ils ne connaissent pas lorsqu'ils sont parisiens ou lorsqu'ils sont français. Ce genre de catastrophe n'arrive pas ici, ou en tout cas de manière beaucoup moins forte. Et évidemment, ils le ressentent du coup de manière très 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 réaliste et en ressortent en larmes très souvent.
Est-ce qu'il y a un regard différent sur l'ensemble de l'exposition? Parce qu'en plus, c'est justement des décors qu'il s'agit. Et on a toute l'impression qu'un tremblement de terre, justement, ce qui détruit, altère par définition, c'est justement les décors. Est-ce que...
En fait, ce qui est très important, je pense, de souligner, et je pense qu'on l'a dit auparavant, c'est que cette exposition ne se veut pas être une cartographie, comment dit-on, touristique du Chili. On n'a absolument pas le désir, ou la prétention en tout cas, de faire croire aux visiteurs qu'en 12 œuvres, on allait leur présenter exactement ce qu'était le Chili dans son intégralité. On est finalement dans une exposition qui parle d'une problématique particulière, qui est ce mélange entre la fiction et la réalité. Et cette problématique est vue par des artistes chiliens. Donc évidemment, lorsqu'on arrive dans cette exposition, avec ce tremblement de terre, comme je le disais tout à l'heure, la fiction et la réalité se mélangent très curieusement. Mais les visiteurs, en fait, avant d'arriver dans la pièce de Francisca, qui du coup résonne en eux de manière certainement plus corporelle, d'ailleurs plus physique, comprennent d'ailleurs qu'on parle de fiction et qu'on parle de ce mélange particulier entre la fiction et la réalité, et qu'on est, comme le dit Hervé dans le texte qu'il a fait pour le catalogue, qu'on est devant une radiographie subjective du Chili et donc de l'envers du décor. Finalement, le regard des Chiliens, des artistes chiliens, est juste un angle pour aborder cette problématique de fiction et de réalité.
Vous avez dit au début, vous êtes responsable du travail avec les publics. Si j'ai bien compris, j'ai entendu un pluriel. C'est quoi les publics de l'espace?
Les publics, c'est un terme très générique pour parler de toutes les personnes qui passent la porte de l'espace. C'est effectivement des badauds, des personnes qui sont sur les Champs-Élysées, qui connaissent l'existence ou qui ne connaissent pas d'ailleurs l'existence de l'espace, qui sont amateurs ou non d'art contemporain et qui viennent découvrir une exposition, soit en fonction du thème qui les intéresse, soit parce que ce sont des habitués et qu'ils reviennent très régulièrement dès qu'une exposition est ouverte. Mais ces publics, ce sont aussi des véritables amateurs d'art d'ailleurs, des amis des musées par exemple, qui fréquentent régulièrement les autres institutions publiques d'art contemporain. Et c'est aussi des enfants. On a un programme jeune public qui accueille pour chacune des expositions entre 1500 et 2000 enfants. Et ces enfants viennent découvrir l'exposition avec une médiatrice spécialisée qui ensuite, après cette visite, les emmène dans la cuisine où nous trouvons aujourd'hui pour faire un atelier de création. On avait d'ailleurs imaginé un atelier avec des enfants au Chili. C'est un atelier qui nous tenait vraiment à cœur en utilisant des outils numériques pour discuter justement de Chili, créer un pont entre les enfants français et les enfants chiliens. C'est un atelier qui nous tient toujours à cœur et qu'on espère pouvoir monter malgré le tremblement de terre. Et voilà.
nous avons la chance qu'à ce moment même où nous enregistrons l'émission, il n'y ait pas d'enfant. Donc l'animatrice, elle est là avec nous. Et bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est ?
Aurélia.
Aurélia, est-ce qu'il y a eu déjà des expériences d'ateliers qui ont été faites avec des enfants à propos de cet envers du décor chilien? Comment se sont-elles passées? Qu'est-ce qui frappe les enfants? Comment ils réagissent?
Alors, j'ai déjà eu 3 expériences, pas de scolaire, pas de classe pour l'instant, ils étaient en vacances, mais d'association. Donc soit d'associations de jeunes en difficulté, soit d'associations d'enfants un peu perdus. Et ils ont extrêmement bien réagi. Ils sont beaucoup moins surpris que nous au final. Ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ils ressentent énormément de choses. Comme pour chaque exposition au final, ils me font découvrir les œuvres d'une nouvelle manière en fait. Voilà. Ils sont tellement peu bloqués comme nous on peut l'être de peur de faire des erreurs, de dire des choses fausses que du coup voilà, ils sont extrêmement touchés, ils ont beaucoup moins peur que nous. Le tremblement de terre, je pensais que certaines réactions seraient assez fortes, que ce soit physiques ou autres, et au final ils le prennent très très bien, ils prennent ça plutôt comme un jeu au final.
Lorsque vous dites qu'il y a des activités après qui sont donc des activités de création, elles consistent en quoi et qu'est-ce que ça a donné, par exemple, après les visites de cette exposition?
Alors, ce sont des activités pour le jeune public qui sont soit autour d'un débat, soit un questionnaire autour de l'exposition, soit des activités vraiment de création plastique. Cette fois-ci, on pose la question de la ville, du pays, des limites, des frontières, de l'organisation de notre environnement quotidien. Donc l'objectif est que chaque enfant crée un ou plusieurs objets de notre quotidien, une voiture, un immeuble, ils ont beaucoup plus d'imagination que nous au final, un lampadaire, une poubelle ou autre. Et tous ces objets qu'ils ont réalisés séparément viennent prendre place sur un support pour créer une ville vraiment pour eux. Ils créent vraiment leur propre ville avec sa propre organisation. Donc on passe vraiment d'un travail individuel à un travail collectif pour créer notre propre ville.
Merci Aurélia. On va écouter un petit passage d'une dernière chanson qui fait partie de ces croisements entre la culture française et la culture latino-américaine. C'est un chanteur brésilien et le thème s'appelle « Boleriando con Ravel » et vous allez comprendre à l'écoute.
Do sapo, do caio som do cidlé, do gaio 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 si, sabo gaio 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 si, ye 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 yo 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 yo, ye 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 yo 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 yo. Do sol, do mar, oi, oi, do galho só no sino lá um cagá, sei um não quer eu cagá, do galho um sino num gato, foi, 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 Gagai, sei um só, oh, you get it. Eu ganho um sonho que eu quero, eu não quero.
Il s'appelle João Bosco. João Bosco, son regard tout particulier du boléro de Ravel. Nous allons continuer à rencontrer des gens qui sont des près ou de loin, depuis longtemps ou depuis plus récemment, associés à cette aventure de l'exposition « L'envers du décor ». Mathieu O'Keeffe, vous êtes plutôt récemment arrivé dans cette aventure. Vous êtes stagiaire ici à l'espace Louis Vuitton. Qu'est-ce que vous avez découvert lorsque vous avez été confronté pour la première fois à l'exposition et à ce qui se passe ici?
Ah, bonjour. C'est que je n'ai pas du tout suivi le montage de l'exposition. D'abord, c'était que le titre, Chili, l'envers du décor. Et d'abord, le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu l'exposition, c'était le mot surprenant. On s'attend d'abord peut-être, malheureusement, à une exposition sur le Chili, mais pas du tout. C'est une exposition qui parle du Chili, certes, parce que tous les artistes sont chiliens. On va parler un peu de l'histoire, de la géographie du Chili, de l'identité du Chili, mais... Après, c'est sûr qu'il y a différents degrés. Ce que disait alors Hervé Mikhailov, il y a différents degrés de perception. Et tout de suite, quand on voyage dans le Chili, après on peut tous, par nos histoires, je pense, avoir une interprétation beaucoup plus personnelle et à la fois universelle.
Vous aviez une connaissance du Chili, vous aviez une idée du Chili avant de voir l'exposition qui a été corrigée, qui a été confirmée?
À vrai dire, pas tellement. C'est plutôt certaines œuvres ont particulièrement touché, en effet, parce que il y a des moments du Chili, alors, on parlait tout à l'heure du travail sur le stade national du Chili. En fait, c'est cette œuvre qui parle du régime Pinochet, en mettant en avant le stade qui est un peu un monument symbolique de ce régime. Et à la fois, ce stade est quelque chose un peu qu'on peut tous retrouver dans beaucoup de pays. On a tous un stade national. En France, ça fait penser en fait aux Valdives. Mais si on va plus loin, on peut dire que ça fait aussi penser à Auschwitz en Pologne. Donc c'est-à-dire que cette dictature qui a touché particulièrement le Chili, en fait, les artistes ont très bien su montrer un peu des choses qu'on peut retrouver dans d'autres histoires. En fait. Mm-hmm. Ça, les Navarro, pour les deux frères Navarro, ont travaillé ce...
Des symboles qui du coup sont plus universels.
Voilà, plus universels, plus cosmopolites.
Merci Mathieu. Je voudrais, avant de terminer, poser une question ouverte aussi bien à Marie-Ange qu'à Hervé. Nous sommes à 2 ou 3 semaines de l'ouverture. Quelles sont les premières sensations que vous avez par rapport à ce que vous imaginiez qui pouvait arriver, aux réactions que ça pourrait provoquer et à ce que vous avez vu déjà avec les peu de temps de vie que l'exposition peut avoir? Est-ce que vous êtes vous-même, comme disait Mathieu, surpris des réactions que ça provoque ou il se passe exactement ce que vous vouliez qu'il se passe?
Il ne se passe jamais rien. Enfin, on n'a pas de volonté à ce qu'il se passe des choses préattendues. Dans l'espace culturel, on n'a qu'une idée, c'est d'agrandir l'espace, justement. Mais tous les espaces, l'espace de réflexion, l'espace mental, l'espace d'imagination. Et on cherche à bousculer les idées reçues, parce que l'art, d'ailleurs, s'en charge beaucoup mieux que nous. Et on est très étonnés. Moi-même, je suis très étonnée. Plus je regarde cette exposition, plus je la trouve extrêmement dense, extrêmement éclatée, extrêmement variée, extrêmement frappante. Et Hervé l'a dit tout à l'heure, et ça me frappe énormément, par l'absence, quelque part, de représentation humaine. Et puis la vigueur de l'expression, qui est assez conceptuelle et abstraite, et c'est ça qui m'intéresse. Et d'autre part, je pense que les gens ne s'attendaient pas du tout à ça. Pour une fois, dans cette exposition, dans le titre, et ça c'est Juliette qui me faisait remarquer l'autre jour, il y a Chili, l'envers du décor. En général, quand on a des titres, on n'associe pas le nom d'un pays. Et là, on pose en postulat qu'il s'agit du Chili, et le Chili... Tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien, c'est beau, c'est très loin, c'est une île, ça ressemble à une épine dorsale. » Mais finalement, à part les idées d'Épinal et les idées bouleversantes qu'on a évoquées tout au long de cette émission, il n'y a pas vraiment d'idées, pas plus que de tous les Chiliens que j'ai pu rencontrer à Paris. J'en rencontre énormément parce que c'est intéressant d'associer les Chiliens qui habitent Paris, qui souvent sont partis pour des raisons qu'on peut soupçonner. Pas du tout le sentiment de leur apprendre des choses, mais de partager avec eux. J'en rencontre énormément de ces Chiliens, sont aussi extrêmement étonnés. Ne savaient pas, ne savent pas, ne les connaissaient pas. Donc tout ça fait du lieu exactement ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire qu'un lieu de partage, un lieu de rencontre et un lieu où on pousse un peu les limites de l'attendu et un lieu où l'espace devient sans forfanterie un peu plus grand.
Hervé ?
Comme disait Marie-Ange, à l'instant, une exposition, c'est avant tout un espace mental. Donc, une fois qu'on l'a fait, l'exposition, elle appartient à son public. J'étais frappé de la réaction des gens par la méconnaissance, effectivement, de l'art contemporain chilien. Et même en Amérique latine, des collectionneurs qui s'intéressent aujourd'hui à des pays comme le Brésil, l'Argentine, qui sont des pays où il se passe des choses formidables en termes de création, n'ont pas cette perception de l'art chilien, parce que l'art chilien est très introverti pour toutes les raisons qu'on connaît et très organisé, un peu comme l'était finalement l'art français il y a encore quelques années. Et je crois que c'est cette volonté d'exportation de l'art chilien et de l'ouverture sur un public à la fois un public non averti mais un public aussi averti est une chose importante, parce que j'espère qu'il y aura des collectionneurs qui comptent, qui vont continuer notre aventure et continuer à s'intéresser aux artistes chiliens. Et j'ai le sentiment aussi que la génération d'artistes qu'on montre aujourd'hui a envie d'aller de l'avant, et que finalement, avec tous les bouleversements qu'on vient de connaître très récemment, à la fois politiques et en même temps géographiques, permettra à l'art chilien d'aller au-delà, de briser les frontières et de se montrer à tout le monde.
Merci Hervé Mikhailov. Nous étions donc ici à l'espace Louis Vuitton avec Marie-Ange Moulongué, directrice de l'espace, avec Hervé Mikhailov, et on était avec Juliette Degonnet, Gilles Morgan, Alexis Bertrand et puis des visiteurs qui passaient par là. Vous pouvez venir donc au 60 de la rue de Bassano dans le 8e arrondissement, maître Georges V, jusqu'au 9 mai prochain, voir cette exposition qui s'appelle « Le Chili, l'envers du décor ». Vous pouvez avoir davantage de renseignements et sur le site de l'espace, louisvuitton.com/espace-culturel, ou sur le site de la Franco Latina, lafrancolatina.com, pour davantage de détails. Parmi tous ces détails, sachez que l'entrée à cet espace, il est complètement libre et que c'est une exposition qui a la particularité aussi d'être ouverte 7 jours sur 7. Alors, nous allons venir pour une nouvelle émission ici, cette fois-ci en espagnol, et je voudrais vous inviter tout particulièrement à visiter le site de lafrancolatina.com, parce qu'il y a en ce moment plein d'initiatives qui se font autour de l'apport de soutien au Chili après la catastrophe. On ne vous donne pas de détails ici, ce serait trop long. Et www.lafrancolatina.com, vous y trouverez plein d'informations. Merci d'être venu, à la prochaine, à bientôt. Et finalement, un grand merci aussi à Bertrand Boeuf qui était comme d'habitude aux manettes et sans lesquelles cette émission ne serait jamais parvenue jusqu'à vos oreilles. Au revoir.
Franco Latina.